Radio Okapi.
Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler du rôle de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire avec Monsieur Jacques Ilunga Lubachi, coordonnateur national de l'ONAT. Des questions et préoccupations, appelées au 081 890 63 94 et qui viennent également à service@radioukapi.net. Marcel Ngombora sur la coordination, Tati Mapoukou réalise cette émission. Pierre Diassinois à la mise en onde au micro, c'est jeudi Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi Service, à votre service.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Vous savez, en RDC, la vie urbaine est devenue le rêve de tout Congolais pour diverses raisons. On fuit nos villages à cause de guerres, de la pauvreté et des atrocités à répétition. Conséquence, certaines villes deviennent tellement surpeuplées jusqu'au point où il n'y a plus d'espace dans certains quartiers, des lotissements des terrains même, dans des milieux à haut risque comme le bord des rivières, à proximité des falaises, etc. Alors, comment assurer un bon aménagement du territoire? Comment surveiller l'occupation et l'utilisation de l'espace physique du pays? Voilà le sujet que nous allons aborder à présent avec notre invité, Monsieur Jacques Ilunga Lubachi. Bonjour.
Bonjour, mon frère.
Vous êtes le coordonnateur national de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. La première question est de savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par aménagement du territoire?
Oui, l'aménagement du territoire, c'est une planification spatiale. Planifier l'espace pour permettre un développement équitable et équilibré. C'est ça l'objectif principal de l'aménagement du territoire. Mmh. Ou la mission principale de l'aménagement du territoire comme ministère.
Planifier l'espace. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à faire cette planification?
Oui, normalement, la planification de l'espace se fait en amont. Vous savez que l'aménagement du territoire, c'est un nouveau ministère pour nous. C'est seulement en 2017 que le ministère est à Paris, avec les réformes qui sont poussées, pour arriver à avoir une politique qui n'existait pas, une politique sur l'aménagement du territoire, qui est déjà validé au niveau du Conseil des ministres. Maintenant, là, nous attendions la loi. On attend juste la promulgation parce que la Cour constitutionnelle vient de valider la loi sur l'aménagement du territoire. C'est après cette loi, ici, là, nous allons mettre en place un schéma national d'aménagement du territoire. C'est ça même la planification spatiale au niveau national. Mais aussi, nous avons mis en place un guide méthodologique pour la planification des espaces au niveau provincial et local. Dès que ce schéma est fait, donc cette planification de tous les territoires au niveau national est faite, les planifications provinciales sont faites. Maintenant, nous, comme observatoire, nous devons surveiller sur tous les sectoriels qui s'occupent de l'espace physique de notre pays, s'ils sont en train de respecter les affectations telles qu'ils sont déterminées dans le schéma national d'aménagement du territoire.
Voilà. Et qui élabore qui doit déterminer les affectations pour dire, par exemple, cet espace ici, c'est pour les maisons, les habitations. tel espace c'est pour les industries, ou tel espace c'est pour peut-être faire l'agriculture et autres.
Oui, l'aménagement a ses principes. Dans les principes de l'aménagement, il y a la participation. Ça veut dire quand nous faisons la planification spatiale, nous avons tous les autres sectoriels, tous ceux qui interviennent sur l'espace avec nous, et nous à partir des atouts de chaque espace, nous devons définir où seront les forêts à garder, quelles sont les forêts à exploiter, où est-ce qu'on va exploiter les mines, où est-ce qu'on va implanter les villes, où est-ce qu'on va laisser les espaces pour l'agriculture, parce que les gens doivent manger s'ils habitent. Mmh. Et dès que nous nous sommes mis ensemble, nous avons défini et nous avons adopté que notre pays sera géré de cette manière-là. Cette fois-là, nous, on vient maintenant en aval pour surveiller que tous les sectoriels qui interviennent sur l'espace physique doivent respecter ce que nous nous sommes dit ensemble.
Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'assurer cette surveillance là, parce qu'on a l'impression qu'il y a une occupation anarchique des espaces. Les gens construisent comme ils veulent sans suivre un plan. Et voilà, les gens vont construire parce qu'ils ont besoin des terrains. Ils construisent des maisons même sur des terrains, des espaces où il fallait pas construire.
L'accélération de la réforme sur l'aménagement du territoire, c'est une. On se rend compte qu'il y a un aspect très important que le gouvernement a oublié, et c'est quand il y a maintenant trop de dangers. Aujourd'hui, je le dis toujours dans mes émissions que le gouvernement est devenu une action caritative où chaque fois, à chaque pluie, il faut appeler les autorités d'aller enterrer, d'aller les localiser, d'aller équiper les gens. Or, ce n'est pas une mission du gouvernement. C'est là où on se rend compte trop vite que par manque de cette planification spatiale, il y a les dégâts qui sont devenus très graves. Les risques sont très, très élevés, surtout liés aux catastrophes naturelles et dans les zones vulnérables. Quand on se rend compte, maintenant, tout le monde doit prendre conscience. Tout le monde prend conscience. C'est pour ça que depuis 2020, l'observatoire a été mis en marche. Et nous avons été retardés un peu par la promulgation de la loi, mais avec les efforts que sont en train de fournir Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, et je salue en passant et je félicite pour sa reconduction, Maître Guy Luando, nous sommes en train de pousser avec l'observatoire pour que demain tous ces aspects ne reviennent pas. Dès que la loi est promulguée, nous allons mettre en place l'équipe des inspecteurs assermentés sur l'aménagement du territoire, qui doivent commencer à contrôler toutes les affectations non autorisées, toutes les affectations des zones non autorisées, et interpeller les gens. Mais aussi, pas seulement à ce niveau-là, mais aussi conscientiser les gens qui habitent déjà dans ces zones, pour savoir comment ils doivent se comporter pour que puissent sensiblement diminuer les risques quand il y a catastrophe naturelle.
Voilà, donc, et comment va fonctionner cet observatoire? Vous avez dit une équipe qui sera mise en place, mais en détail, comment l'observatoire va fonctionner concrètement?
Ok, concrètement, l'observatoire fonctionne sur plusieurs axes. Dans les axes, nous avons d'abord en amont, parce que vous avez introduit par le problème de déplacement des populations, l'observatoire a une grande mission de spatialiser les inégalités socio-économiques pour permettre aux interventions de l'État de suivre, de savoir quels sont les équipements qui manquent à quel endroit pour que les populations congolaises, partout où ils se retrouvent, qu'ils se sentent plus à l'aise d'y être et de ne plus se déplacer en désordre. Ça, c'est au premier point, au premier niveau.
Et là, vous parlez de quel genre d'équipement?
Nous informons aux autorités quelles sont les inégalités sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, sur le plan environnemental, pour que les interventions du ministère, sectoriels puissent être bien ciblées. Ça, c'est le premier point. L'autre point, l'observatoire nous identifions toutes les zones à haut risque. Comme tout à l'heure, là, on vient de terminer une réunion avec l'OVD pour identifier toutes les zones à haut risque. Après les avoir identifiées, nous allons les classifier selon la criticité, les taux de criticité. Après les avoir classifiés, nous allons mettre en place des plans de résilience. Et la finalité, c'est d'installer le système d'alerte précoce. Ça veut dire, dans tous ces quartiers où le danger est déjà très aigu, nous allons mettre des équipes de sensibilisation de la population, comment vivre avec ces risques, mais aussi nous allons mettre de mini-stations météorologiques pour leur permettre de suivre comment le climat évolue et prendre leurs dispositions. Voilà un peu. Mais aussi, nous avons un corps des inspecteurs qui vont aller en formation d'ici quelques jours. Nous attendons le go de notre ministre d'État. Dès qu'ils terminent la formation, ils seront sur toute l'étendue de la République en train de suivre toutes ces affectations qui ne sont pas autorisées et interpeller sur tous les gens qui émettent les documents pour ces affectations ou les titres sans respecter le schéma national d'aménagement du territoire. Voilà un peu comment l'observatoire va fonctionner.
Bien, on va accueillir Justin Koulou de Fungurume. Mais bonjour Justin.
Bonjour Monsieur Jody, et je dis bonjour à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'Observatoire national de l'aménagement du territoire?
En tout cas, nous sommes surpris que le monsieur arrive dans vos studios pour présenter ce qui va se faire. Et nous sommes sans ignorer partout et surtout le sujet que les Européens, en Europe, il y a une très grande confusion des milieux ruraux et des milieux urbains. Parce que tout ce qu'on peut trouver en ville, c'est trouvable aussi dans des fins fonds de l'Europe. Mais qui sait qui n'est pas le cas ici chez nous. Donc il y a l'engouement. Les gens ont quitté chez eux pour se retrouver en ville par de divers motifs. Si nous prenons à l'occurrence l'emploi, les soins de qualité et même le marché de qualité à des prix élevés. Cultiver en bourse et les ramener comme il n'y a pas de route, on préfère de rester toujours en ville et on fait le travaux champêtre et on coule à un prix abordable. Alors, c'est une surprise. Pourquoi? Ce n'est pas la première fois qu'on a entendu parler de l'aménagement de l'habitat. C'est pendant beaucoup de temps. Et nous restons même dans des carcans de dire que ce n'est pas les bons textes qui manquent en République démocratique du Congo, c'est l'application des lois. Et notre invité qui est au studio peut nous préciser convenablement, pas nous parler comme Jésus disait, je reviens bientôt. Nous avons pas cette foi-là de chrétiens d'attendre de les bientôt, c'est quel jour? Et on commence à compter par les 1000 ans. C'est les 1000 ans qui est égal à un jour. Que notre invité nous précise convenablement, nous pouvons espérer le résultat escompté à quand. Il a le planning. Et ensuite, comment intégrer la population qui est en train de subir cette démographie? Ici, à Fungurume, Monsieur Jody, pour atterrir, il y a un grand fléau. Il y a les gens qui ont quitté chez eux. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai quitté Kayeye, Kazaza, pour me retrouver à Fungurume.
Et à Fungurume, les gens, comment s'est fait l'occupation de l'espace? Il y a beaucoup de constructions anarchiques?
Beaucoup même, dans des ravins, sur les montagnes, et comment aller escarper avec de l'eau à boire sur les montagnes. Donc on construit anarchiquement. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon intervention que je suis surpris. Donc c'est tout cela qui s'est passé pendant 5 ans, et même pour les gens qui construisent dans des lignes haute tension, à bord de grandes routes, on ne sait pas comment est-ce que ces gens vont, et les malheurs, bon, la chance, je ne sais pas, les chances ou la malheur qui vont leur arriver. Et c'est les lignes de la haute tension qu'on va déplacer, ou soit c'est la population qui va quitter. J'avais posé aussi cette question, peut-être qu'on peut profiter par cette occasion, si nous pouvons avoir la réponse, et orienter nos...
Bien, les gens qui construisent sous les lignes haute tension, est-ce que doit-on déplacer les lignes, ou bien ce sont ces personnes qui doivent qui doivent partir. Monsieur Jacques Ilunga, vous avez la parole.
Pour commencer par sa dernière préoccupation, c'est les gens qui sont là qui doivent déplacer. Bien sûr, pour commencer par sa première préoccupation, il est vrai que même en Europe, l'aménagement du territoire comme ministère, comme géant ministère, s'est rattrapé que quand les gens ont commencé à subir les conséquences. Et c'est la même chose chez nous. Avant, toutes ces années, l'aménagement du territoire était comme une appendice dans d'autres ministères. Les gens n'y attendaient pas de quoi il fallait que le ministère devait faire. Mais c'est quand aujourd'hui nous subissons des conséquences, quand nous avons des pluies qui nous amènent plus de 138, 140 morts, que nous nous rendons compte aujourd'hui qu'il faut que l'aménagement du territoire soit un grand ministère. Je le disais tout à l'heure là, c'est la réforme qui a trop traîné. Le ministère est là depuis 2017. La réforme a pris le temps qu'il a pris. Mais maintenant, nous sommes déjà à la bord, qu'il puisse avoir le courage. La loi vient d'être déclarée recevable au niveau de la Cour constitutionnelle. D'ici là, elle sera promulguée par les chefs de l'État. Avant la fin 2024, nous allons terminer le schéma national d'aménagement du territoire. Mais déjà, nous avons mis un guide national, un guide d'élaboration des plans provinciaux et plans locaux. Et là, nous allons faire des plans de réaménagement. Pour les villes, nous allons prévoir les plans de réaménagement parce qu'au Congo, ce n'est pas l'espace qui nous manque. Sauf que les gens sont en train de plus vouloir habiter là où il y a les équipements publics. C'est pourquoi je vous ai dit dans notre première mission, nous identifions toutes les inégalités qui existent au niveau de l'emploi, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, pour que les sectoriels puissent corriger ces erreurs. Que dans tout le milieu, celui qui est à Fungurume ne puisse pas envier d'aller à Kinshasa ou d'aller à Lubumbashi. Il peut aussi rester à Fungurume parce qu'il y a une université. Il peut rester à Fungurume parce qu'il y a une bonne école. Il peut rester à Fungurume parce qu'il y a un bon hôpital. Il peut rester à Fungurume parce qu'il y a un emploi. Alors cette fois-là, il ne peut pas aller se déplacer pour aller ailleurs. Ça, c'est une préoccupation vraiment permanente du ministère de l'Aménagement du Territoire. Ce que je disais tantôt à mon introduction, le développement équitable, équilibré et durable. Mais à ce qui concerne tous ceux qu'ils ont occupé des zones non autorisées.
Qu'ils ne devaient pas occuper.
Oui, qu'ils ne devaient pas occuper. On doit mettre en place des plans de réaménagement urbain. On doit déjà prévenir avant. Aujourd'hui, vous avez vu que les villes, les gens se mettent partout parce qu'il n'y a pas là où on doit les recevoir. Mais avec l'aménagement du territoire d'emblée, avec les plans de réaménagement urbain, nous aurons déjà en amont préparé les endroits que nous appelons la viabilisation. Identifier les endroits, les viabiliser et dire aux gens d'aller rester là où c'est viabilisé parce que c'est déjà prévu pour vivre. De manière que les autres espaces qui ne sont pas propres pour habiter ne peuvent pas être habités en désordre. Et tous ces sectoriels qui viendront mettre du désordre quand il y a les schémas et la loi, ils vont subir la rigueur de la loi. Ça, vraiment, mon ministre d'État insiste beaucoup. Ils vont subir la rigueur de la loi. On ne peut pas permettre ça. Parce que l'État, comme je disais, ne peut pas continuer à être une action caritative. L'État doit s'occuper au développement du pays. Ce n'est pas chaque fois sortir l'argent pour aller corriger les erreurs causées par l'entêtement de la population. Voilà un peu s'il faut répondre à notre monsieur. Qu'il soit tranquille, nous venons de loin, la réforme a beaucoup plus avancé. Je pense que d'ici là, d'ailleurs, nous allons déjà installer les antennes d'observatoire dans certaines villes, d'ici là. Et il va sentir que après la promulgation de la loi, plus rien ne sera comme avant.
Bien, on va accueillir Madame Claudia depuis Kolwezi. Nous parlons de l'aménagement du territoire. Quel est le rôle de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire? Madame Claudia, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à Monsieur l'invité. Monsieur l'invité, ne pensez-vous pas que vous êtes venu avec un retard? Moi je pense que c'est déjà trop tard. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire à ce stade? tout a déjà été spolié. L'urbanisme a déjà procédé à la destruction. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Est-ce que vous allez casser certaines maisons? Ce sera possible. Parce que ça va demander beaucoup de moyens, trop de moyens. Est-ce que ce serait possible vraiment? Et s'agissant de l'exode rural, les gens qui quittent les villages pour venir s'installer dans les villes, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour empêcher cela? Ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès aux soins de qualité, pas d'électricité, ils sont marginalisés, ils n'ont rien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour arrêter cela? C'est un peu ça ma préoccupation, merci.
Bien, Justin Kalabia depuis Bounia. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour monsieur Jody, bonjour à l'invité.
Oui, Justin. Allô? Allez-y.
Oui, monsieur Jody, merci vraiment de m'avoir associé dans cette émission. Oui, l'aménagement du territoire, monsieur Jody, je pense que nous avons des services dans ces pays. Nous avons les services des cadastres et les services d'urbanisme. Mais quand nous voyons nos territoires à travers les pays, les 145 territoires que nous avons dans ces pays, vraiment, monsieur Jody, je ne comprends pas depuis l'époque des colons jusqu'à présent. C'est maintenant, aujourd'hui, que nous avons cette idée-là. Et tout ce que nous disons ici, peut-être, je ne sais pas si ça serait aussi une théorie, comme nous l'avons toujours dit, mais est-ce que c'est aujourd'hui où nos territoires seront aménagés? Ça, c'est la première question que je pose à l'invité. La deuxième question, par rapport à l'exode rural, monsieur, aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, donc toute personne aime maintenant la vie urbaine. Pourquoi? Parce que au village, la vie est intenable. Pourquoi ça, je pose cette question, monsieur, aujourd'hui? Il y a les atrocités, il y a des conflits interethniques, il y a donc tous les mâles sont au village. Mais lorsque nous analysons, moi je pense que si les villageois pratiquent de telles choses, c'est suite à une mauvaise gouvernance. Ça, c'est selon ma suggestion, M. Jody. Pourquoi? Parce que les villageois sont beaucoup plus manipulés par les politiques. Et je pense que si les villageois, s'il y a beaucoup d'atrocités, il y a beaucoup de conflits interethniques, il y a beaucoup de groupes armés, c'est suite toujours, M. Jody, à une mauvaise gouvernance de la part de nos politiciens. Voilà mes suggestions, monsieur, aujourd'hui, et bonne journée.
Bien, merci. Monsieur Jacques Ilunga, à vous la parole.
Monsieur Jacques, pasteur de notre sœur qui a intervenu. Trop tard n'existe pas. Nous avons saisi, c'est le temps où nous avons pris conscience de ce qui se passe dans le pays. Je le disais en introduction que même dans des pays de grande démocratie, l'aménagement a été rattrapé pour corriger les conséquences que les gens ont subies. Mais pour y arriver, il y a eu des casques. Pour les casques que les gens ne puissent pas oublier, il y aura des casques. Parce qu'on doit corriger. Nous disons en français qu'on ne peut pas manger de l'omelette sans casser les œufs. Il faut casser pour corriger. Tout ce qui est très mal fait, que nous pensons qu'ils peuvent amener de graves conséquences, doit être cassé. Mais aussi, je pense, dans la vision du chef de l'État, vous voyez que nous avons commencé par le projet 145 territoires, le développement des 145 territoires. C'est une correction quand je parlais des problèmes des inégalités. Dans le territoire là où il n'y a pas d'école, on va y construire des écoles. Là où il n'y a pas d'hôpitaux, on va construire des hôpitaux. C'est une manière de créer l'emploi au niveau de la base, mais aussi de mettre en place des établissements, quelques établissements publics au niveau de la base, pour que les gens qui sont à la base, pour freiner l'exode rural, pour que les gens qui sont à la base, quand ils sont dans de bonnes conditions, quand ils ont des équipements ou des équipements publics qui résolvent leurs problèmes, ils ne peuvent pas se déplacer pour aller vivre en ville où la vie est pas tellement chère, mais très très compliquée, où ils vont vivre dans des conditions très très difficiles. Donc nous y sommes déjà. Nous sommes en train d'avancer ensemble avec le projet des 145 territoires. C'est déjà juguler et corriger certaines inégalités en amont, mais aussi avec la continuité de l'identification des 6 inégalités et qui alerte les autorités à aller corriger là où c'est encore plus grave. C'est toujours une manière de lutter contre l'exode rural. Donc, c'est pas trop tard comme j'ai dit. Nous allons corriger ce que nous devons corriger pour corriger que ces gens qui habitent dans des zones très complexes, qu'ils sachent qu'il y aura des casques. Mais un élément très important qu'il faut retenir, c'est que sans aménagement du territoire, le ministère sectoriel, quand je parle de sectoriel, tout le ministère qui travaille sur l'espace public et sur l'espace physique de notre pays, avant l'arrivée de l'aménagement du territoire, ils ont travaillé en solo. En solo, ça veut dire le ministère de l'Environnement pouvait donner des titres d'exploitation forestière sans concerter le ministère des Mines, sans concerter les hydrocarbures, sans concerter le ministère de l'Agriculture, ainsi de suite. Et cela a créé la superposition des titres. C'est parmi les missions de l'aménagement du territoire de faire aujourd'hui l'arbitrage pour corriger les superpositions de ces titres-là. Mais aussi prévenir pour que cela ne soit pas. Parce que quand il y aura un chemin national d'aménagement du territoire, nous aurons déjà affecté les sols et ces ministères ne travailleront pas en solo. Désormais, toute affectation, tout octroi de titres sur l'exploitation du sol doit recevoir un avis favorable du ministère ayant l'aménagement du territoire comme responsabilité. Pour ça, c'est pour permettre la coordination, qu'il n'y ait pas de superposition, qu'il n'y ait pas de problème des gens qui vont couper les arbres dans les forêts protégées, soit les gens qui exploitent dans les zones où les gens qui vont habiter dans les zones prévues pour l'agriculture, ainsi de suite. Tout ça, ça va finir. Nous allons y aller lentement. Nous sommes déjà au bout de notre réforme. Comme la loi est en train d'être attendue, peut-être avant fin avril, la loi sera promulguée. En tout cas, plusieurs choses vont changer. Les gens vont sentir que plusieurs choses vont changer.
Bien, donc on retient que vous n'êtes pas venu trop tard, comme le disait madame Claudia tout à l'heure. Et Justin, qui pose la question de savoir comment est-ce que vous comptez aménager les territoires. Aujourd'hui, on retrouve dans nos villages, il y a presque rien dans les territoires. Bon, il y a le programme des 145 territoires aujourd'hui. Est-ce que, au-delà de cela, il y aura autre chose? Qu'est-ce que votre service pourra faire dans ce cadre-là?
Il y aura autre chose. C'est là où je parlais des plans d'aménagement, les plans d'aménagement locaux dans les milieux, à part le projet des 145 jours, déjà qui nous accompagne dans la correction des inégalités, mais il y aura, dès que nous allons terminer les guides, et les guides seront mis à la disposition de chaque entité territoriale, il y aura des planifications, des plans d'aménagement territorial. Dans la planification d'aménagement territorial, c'est là où on va placer les équipements manquants, c'est là où on va penser où affecter quoi et comment les gens vont habiter équitablement. Il ne faut pas et comment réduire les inégalités, parce que vous savez que ce sont les inégalités, même quand celui, notre frère de retour, quand il parle de l'insécurité, vous allez trouver que beaucoup, le fondement principal des inégalités, de l'insécurité, c'est les inégalités. Quand nous corrigeons les inégalités au niveau des territoires, nous luttons directement sur l'insécurité, contre l'insécurité. Donc quand les choses sont corrigées, quand les gens se sentent à l'aise là où ils sont, je pense que quand les gens se sentent qu'il n'y a pas des inégalités entre eux et entre leur territoire, entre ceux qui sont en ville et ceux qui sont dans les milieux ruraux, je pense que déjà, en amont, nous combattrons aussi contre l'insécurité.
Bien, on va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Nous parlons du rôle de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire avec M. Jacques Ilunga Lubachi, qui en est le coordonnateur. Roger Marcel, bonjour.
Bonjour M. Jody, bonjour à notre invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
M. Jody, lorsque j'ai vu un peu ce sujet sur Facebook, ça m'a fait vraiment rire. Parce que c'est aujourd'hui où on voit que notre État congolais se réveille. On se demande vraiment, parce que moi, souvent, je me demandais ce que le ministère des aménagements du territoire, c'est un ministère qui existe. Même nous, quand on constate sur terrain, on voit que ce ministère-là n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a 26 provinces. Aujourd'hui, si vous parcourez peut-être la République, vous allez voir, c'est terrible. Hein? Si on dit que non, il y a les gens qui quittent un peu leur milieu pour venir habiter dans des villes, aujourd'hui des villes bien le plus peuplées. Moi, je prends tout d'abord l'exemple de ma province. Allez-y là-bas, vous allez voir, il y a combien d'universités, il y a combien d'hôpitaux,
il
y a combien
de... Il s'agit de quelle province?
Kassai Central.
Mm.
Moi, quand j'ai quitté en 2015, parce qu'il n'y avait pas, la faculté où je pouvais faire. Allez-y voir, même aujourd'hui à Kinshasa, on achète un bain plus juste, c'est à 500 francs. Mais là-bas, quand on est sur 2000, une bouteille d'alcool, c'est à 8000 francs. Manger une poulet, c'est à combien? Les gens dépassent même à 10 dollars. Quand vous prenez une personne qui voit ces choses-là, et si vous vivez dans une province où il n'y a pas d'électricité, vous vivez dans une province où tout est cher. Quand on manque même un stade.
D'accord. Quelle est la question que vous adressez à l'invité? Donc, vous dites que l'observatoire est arrivé trop tard, hein, ou il est encore possible de refaire les choses, de bien faire les choses.
Je dis que c'est déjà trop tard, mais je pense qu'avec le programme des 145 territoires, comme le chef de l'État a fait cette initiative, je pense peut-être qu'on pouvait même aussi faire au moins quelque chose. Parce que c'est terrible. Ah, si vous partez dans des milieux, dans des territoires, dans des provinces, vous allez voir, on a à peu près, trois villes. Après Kisangani, Lubumbashi, les gens...
Oui, il y a quand même des infrastructures sociales de base, mais dans les autres villes, il y a presque rien. Merci. Esaïe, d'accord. Esaïe, vous êtes à Mouika. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio Okapi.
Quelle est votre question, Esaïe?
Ma question est celle-ci. Par rapport au sujet que vous traitez sur à travers la radio Okapi, est-ce que, je demande un peu à l'invité, est-ce qu'il y a-t-il des sanctions réservées aux gens qui vont gâter et déranger le projet des 145 territoires? Puisque ici, à Mouka, nous avons l'habitude, on envoie l'argent comme ça pour peut-être arranger le bâtiment administratif ou bien arranger des routes. Les députés bouffent cet argent ici, à Mouka. Maintenant, ils tirent des photos en Chine, en Europe, ils vous amènent des photos là-bas que nous avons déjà arrangé des routes. Moi, sur place ici, je vous dis, si vous regardez la route qui quitte Mouka vers Tekengetananga là-bas, il y a des ravins là, il y a même un quartier ici qu'on appelle Koutemboke. Je vous dis un quartier qui est rempli de beaucoup de ravins. Maintenant, l'État envoie l'argent, nos politiques bouffent cet argent. Pendant qu'ils ont des maisons en Europe par-ci, par-là. Et ils viennent maintenant nous tricher l'argent qu'on nous donne ici pour ranger des routes. Alors maintenant, est-ce qu'il y a toutes des sanctions réservées pour les gens qui vont gâter encore le projet de 145 territoires? Ça, c'est la première. La deuxième question est que nous voulons, est-ce qu'il y a-t-il moyen qu'on puisse chercher un canal par lequel Mouika peut être connecté avec Kinshasa à travers le projet de 145 territoires? C'est ça ma question. Alors, je salue tout le monde à travers la radio.
Merci, Esaïe. Monsieur Jacques Ilunga, à vous la parole.
Merci beaucoup. Les sanctions sont prévues, que ce soit au niveau de 145 territoires ou au niveau du non-respect du plan d'aménagement du territoire qui seront mises dans tous les territoires et dans les provinces. Il y a des sanctions pour ceux qui ne vont pas respecter. J'espère que la loi elle est claire. J'ai dit qu'elle sera promulguée d'ici là. Il y a des sanctions prévues. C'est pourquoi je vous ai dit même qu'il y a des inspecteurs qui sont en train de vouloir commencer leur formation. Ils seront déployés sur l'étendue de la République pour suivre tous ces aspects des choses sur l'aménagement du territoire. Et sur le plan de la connexion, je pense qu'il est en train de suivre. C'est notre préoccupation aussi. Quand on parle de l'aménagement, il y a des infrastructures structurantes. Il faut que tout le milieu puisse être, les centres puissent être connectés, les centres de production puissent être connectés au centre de consommation et au centre de transformation. C'est une préoccupation vraiment permanente. Je pense comme ça qu'on se bat petit à petit. La route qui quitte Kinshasa est en train d'aller vers Kananga, vers Tshikapa, Tshikapa Kananga, et fin de fin, à partir de Kananga, ils vont connecter Mouika.
Bien. Voilà, c'était ça la réponse à la question d'Esaïe. Roger Marcel a dit que Kananga, lui, il a même quitté Kananga parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas d'université, etc. Il a préféré venir vivre ici à Kinshasa et que votre service est venu un peu en retard, d'après lui.
C'est ce que je disais, c'est cette prise de conscience que nous, on pense. Ce n'est pas les retards, mais c'est la prise de conscience. Parce qu'avant, les gens n'avaient pas conscience. Même au plus haut niveau. Vous vous rappelez qu'avant, le ministère de l'aménagement du territoire, depuis 1957-1960, n'était qu'un appendice dans d'autres ministères. C'est seulement à partir de 2015, de 2016, de 2017, quand il y a eu trop de problèmes au niveau des risques, que les gens sont en train de prendre conscience. Notre avantage, c'est que les gens prennent déjà conscience. Quand les gens prennent déjà conscience, ils savent que quand ils habitent dans le milieu où c'est trop risqué, il y a des problèmes. Quand les gens quittent, il y a exode rural parce qu'il n'y a pas d'université, ce sont des problèmes. Alors, tout ça, l'aménagement du territoire vient corriger par sa coordination, le fait de coordonner tous les autres ministères sectoriels qui s'occupent de la gestion de l'espace. Il y aura plusieurs problèmes qui seront corrigés. Je le dis et je le répète encore, ce n'est pas seulement en RDC que cela, qu'on est en train de le vivre. Le ministère d'aménagement du territoire, même dans d'autres grands pays, se réveille toujours avec retard, parce que les gens prennent conscience des conséquences. Vous savez que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Quand il y a trop de conséquences, les gens se réveillent, viennent se dire qu'est-ce qui nous manque. Bon, ce qui manque, c'est cette coordination de la gestion de l'espace physique du pays. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place, ce que le gouvernement est en train de mettre en place. Vous savez que c'est parti vite, très vite, parce que le gouvernement a pris conscience. Le ministère n'était qu'une direction, de la direction à un ministère. Aujourd'hui, c'est un ministère d'État. Un ministère d'État géré par un ministre d'État très consciencieux de toutes ses responsabilités du pays, très consciencieux parce que quelqu'un qui a beaucoup évolué déjà dans les affaires sociales, qui comprend les degrés de souffrance du monde rural, qui a commencé avant même d'être ministre à poser les actions caritatives dans les milieux ruraux, qui comprend très très bien et nous poussons pour corriger ces aspects des choses. Ne vous en faites pas, les 5 ans de demain ne seront pas comme les 5 ans d'hier.
Bien, on va accueillir Jean-Pierre de Mouéka. Nous parlons du rôle de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Jean-Pierre de Mouéka, bonjour.
Bonjour, monsieur Judy. Bonjour, monsieur l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jean-Pierre?
Oui, j'étais en train de dire ceci, monsieur Judy. J'avais eu le temps de jeter un coup d'œil dans notre page au Capi Service et voir comment vous dites que les gens du village quittent même leur village pour aller chercher la vie en ville et il n'y a même plus de place en ville, des choses comme ça. Mais comment les villageois ne peuvent pas quitter le village pour leur ville? Parlons par exemple de l'insécurité. Est-ce que là, à Kinshasa, on peut laisser perdurer les rebelles? On peut laisser les rebelles là matéter, peut-être alimenter là pendant un mois? Ne réagit pas. Et pourquoi au village, et pourquoi peut-être à l'Est et partout là au village et partout il y a des insécurités, ça peut perdurer des années et des années. Par exemple, le problème de la pauvreté. Ici chez nous, monsieur Jeudi, nous souffrons. Au village, les gens vous souffrent quand vous n'avez pas d'idée. Quand on va les gens en ville les vivre, quand on a la possibilité, on quitte toujours les villes vers les villes. Par exemple, moi j'ai étudié au collège Saint-Joseph de Boulongo, ici à 17 ou 16 kilomètres de Mouéka. Auparavant, c'est l'école que beaucoup d'autorités de la RDC ici ont étudié. Auparavant, là, les gens quittaient Kinshasa, ils quittaient même Lubumbashi pour venir étudier ici à Mouéka, au collège Saint-Joseph de Boulongo là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bonne formation, parce que les gens poursuivaient la formation. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pourquoi la négligence? Un jour, j'intervenais à l'émission au Capi Service, où le directeur de régie des eaux des régies des eaux intervenait dans une émission quelconque. Il me disait, là, moi, quand vous avez les régies des eaux, ben, pour le moment, ça ne fonctionne plus pour problème des infrastructures. Vous voyez, ce que nous avons déjà, on n'a pas le moyen de les pousser à l'avant. Seulement ce qu'on doit créer. Moi, je suis en train de penser que notre invité, il n'a pas beaucoup de chances qu'il puisse réussir ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire là. Ou peut-être, c'est des promesses qu'ils sont en train de nous faire pour le vote qui vont se faire bien, qui vont se faire dans quelques jours. Et après les élections, on oubliera peut-être, parce que je suis pas en train de voir ces choses aller plus loin. Et les problèmes, par exemple, des 45 et des 145 territoires, ce n'est pas un programme qui allait se faire dans un mandat. C'est quelque chose qui allait peut-être se faire chaque année. Sur moi, c'est que je voulais.
Bien, merci beaucoup. Monsieur Jacques Ilunga Lubachi, qu'est-ce que vous pouvez dire à Jean-Pierre de Mouita?
De dire à notre frère que c'est pas une campagne. Le ministère est là depuis 2017. C'est pas dans un mandat. C'est pas une campagne électorale. Le projet de 145 jours, c'est pas un projet qui s'arrête. C'est un projet qui commence, qui ne doit pas s'arrêter pour un mandat. C'est des années. On a pris conscience qu'il faut commencer par développer la base. Et un autre élément de l'insécurité qu'il parle, je venais de dire, la base, la raison fondamentale de l'insécurité, c'est les inégalités. Le pays est en train, ou le gouvernement est en train de chercher à tout prix à corriger ces inégalités. Commençant par, on doit commencer par quelque chose. On vient de commencer par le projet des 145 territoires. Mmh. C'est pour, on commence quelque part, pour commencer à corriger ces inégalités petit à petit. Pour que là où il n'y avait pas un hôpital, qu'il y ait un hôpital. Là où il n'y avait pas une bonne école, qu'il y ait une bonne école. De manière que les gens qui quittaient pour aller sur la bonne école ailleurs, qu'ils puissent étudier là où ils sont. Et petit à petit, c'est un projet qui doit être répété. C'est un projet qui doit être intégré dans les plans locaux d'aménagement. Et quand on parle de plans locaux d'aménagement, c'est pas les gens qui doivent venir de Kinshasa pour mettre en place les plans de développement de leur propre milieu. C'est eux-mêmes. C'est pourquoi je parle ici, au niveau de Kinshasa, nous on établit juste les guides d'élaboration de plans locaux d'aménagement. Nous formons et nous sensibilisons les gens comment le faire. C'est eux-mêmes là où ils sont qui doivent faire un plan. Et petit à petit, avec les recettes et les recettes du gouvernement et le financement du gouvernement et d'autres partenaires techniques et financiers, ils doivent commencer à exécuter le plan en corrigeant petit à petit les inégalités qui vivent, les effets qui font que les gens se déplacent pour aller ailleurs. Voilà un peu. Donc je demande à mon ami de ne plus croire que nous sommes dans une campagne électorale. Le projet de développement des 145 territoires ne fait que commencer. Il doit continuer des années, des années.
Bien, alors,
le plan d'aménagement du territoire ne font que commencer depuis 2017 que le ministère est là.
Oui.
Ça ne fait que commencer, ça va continuer pour corriger toutes les erreurs de la fois passée et ça va continuer pour qu'on ne puisse pas revenir sur ces erreurs.
Monsieur Jacques Ilunga, là, il y a une question.
Avant de terminer, je disais, nous sommes entrés dans un thème d'amélioration continue. C'est petit à petit, les choses ne vont pas changer comme à la baguette magique. Si on vous promet à la baguette magique, là alors ce sont des, vous direz que ce sont des campagnes les campagnes électorales, nous sommes en train de peut-être de faire de la démagogie. Mais nous sommes très sûrs et conscients des dégâts que le pays a déjà connus, mais aussi là où il y a les hommes, il y a toujours moyen de corriger et d'avancer en se mettant dans la roue, comme la roue de Deming, avec l'amélioration continue. Petit à petit, nous améliorons, mais nous évaluons pour que nous puissions pas rentrer, reculer. Nous devons avancer au lieu de reculer.
Bien. Ah, une question, M. Jacques. Est-ce que l'Observatoire national de l'aménagement du territoire va évoluer de manière autonome ou vous allez travailler en collaboration avec le ministère des Affaires foncières, de l'urbanisme et Habitat aussi?
Oui, déjà, je le disais, dans le principe de l'aménagement du territoire, il y a un principe clé qui est de la participation et de la contribution de tout le monde. L'aménagement du territoire, c'est une structure qui fonctionne à des niveaux. Nous avons une coordination qui coordonne les activités, mais nous avons un conseil consultatif qui regorge le représentant de tout le ministère qui interviennent sur l'espace physique du pays.
Bien. Quel est le rôle de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Alors une autre question, Monsieur Jacques. Est-ce que le ministère de l'aménagement du territoire peut, par exemple, décider, voilà, aujourd'hui, avec l'évolution, la démographie, on peut déplacer telle infrastructure? Par exemple, à Kinshasa, il y a eu à un certain moment, il y a eu le bruit selon lequel le camp Kokolo va être déplacé, on va l'envoyer ailleurs. À cause de l'urbanisation, tout ça, la démographie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
Effectivement, ça n'a pas fini. Le projet est toujours là. Il est piloté par une structure sœur, toujours du ministère de l'aménagement du territoire, l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Il est en train de penser, pas seulement pour les camps Kokolo, mais c'est pensé parce que quand on avait prévu dans le premier plan l'emplacement des camps militaires et des camps de policiers, aujourd'hui tous ces camps sont entourés des gens. Maintenant, c'est du méli-mélo entre les civils et les militaires. On a un plan, un grand programme de déplacer et de replacer les camps militaires et les camps des policiers. C'est dans ce cadre-là que le ministère est en train de piloter ces camps. Et même plus loin, pas seulement les problèmes des camps, nous sommes en train de penser aujourd'hui, avec encore une agence sœur de l'aménagement du territoire. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'État congolais n'a pas de cimetière. Alors, le ministère a un projet de jardin des morts. Il faut mettre en place, les jardins des morts où seront enterrés les gens très facilement, mais dans de très bonnes conditions. C'est aussi un autre projet. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont les privés qui s'y mettent sans contrôler n'importe quel aspect. Ils mettent les cimetières par-ci, par-là. Ce sont des aspects aussi que le ministère est en train de suivre. Donc nous sommes sur plusieurs pistes, mais nous y allons lentement en suivant le rythme de la réforme.
Bien, on va accueillir Marcelin depuis l'UNA. Bonjour Marcelin, et quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Joudy, bonjour à l'invité. Nous le remercions à travers le courage qu'il manifeste devant les questions de tous les intervenants. Et d'après notre intervention, nous souhaiterions qu'on puisse parler des enclavements des territoires plutôt que parler de l'aménagement, parce que nous sommes en train d'observer, M. Jody, si la résidence avait de la mi-temps comme dans un match de football, sinon on allait appeler ceux-là qui sont dans le centre-ville pour rester au village. C'est pourquoi nous demandons à l'invité, est-ce qu'il n'utilise pas la philosophie morale suite à ces expressions-là? C'est quand? Est-ce que ça sera à notre génération?
Bien, merci Marcelin de l'UNA. Monsieur Jacques Ilunga.
Oui, aménagement, l'enclavement, ce n'est qu'un aspect des choses sur l'aménagement. Quand nous parlons aménagement, j'ai parlé ici des infrastructures structurantes. Je veux parler de facilité de circulation de la mobilité de la population, de la planification des activités de la population, des suivis de la démographie. Tous ces éléments sont dedans. Quand nous parlons de plans, il y a même des plans particuliers où nous parlons de plans interprovinciaux ou des plans interurbains, intervilles. Donc l'enclavement n'est qu'un aspect de l'aménagement. Quand nous parlons de l'aménagement, on sous-entend quand les points de production vont être connectés aux points de consommation et aux points de transformation, c'est déjà un désenclavement. Ce n'est pas l'affaire des générations futures. Nous sommes là en train de commencer. Mmh. Notre souci, nous sentons que ça va aller vite parce que les gens ont pris conscience. Même les gens qui aujourd'hui construisent anarchiquement sont en train de prendre conscience qu'ils ont construit anarchiquement et que leurs maisons, ils ont fait des constructions non durables parce qu'après plusieurs pluies, il y a des fissures, il y a ceci et puis il commence à pleurer, et puis il y a des dégâts, il y a des risques qu'il faut atténuer. Le fait que les gens prennent déjà conscience, pour nous, c'est un pas que les choses vont aller trop vite.
Bien. Voilà, c'est bien dit. Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Jacques Ilunga Lubachi, qui est le coordonnateur de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. Et Monsieur Jacques, on va s'arrêter là. Peut-être un dernier mot, une dernière chose à dire avant de clôturer cet entretien.
Un dernier mot, c'est remercier tous les intervenants et tous ceux qui nous suivaient, mais aussi, vraiment un élément très important, remercier le chef de l'État qui a compris qu'il fallait encore reconduire le ministre d'État à l'aménagement du territoire, parce que les chemins, les chantiers sont très nombreux à suivre. Il fallait pas qu'on s'arrête en route ou dès qu'on change, qu'on recommence encore. Alors pour ça, vraiment, on les remercie, on les félicite et on félicite notre ministre d'État d'être reconduit dans sa vision. Et nous disons que tant que nous sommes là et nous avançons, après la promulgation de la loi, les choses sont en train de bouger et les choses vont bouger.
Bien,
c'est pas
merci.
Pour les générations futures, mais c'est pour nous, ça doit bouger.
D'accord, merci Monsieur Jacques Ilunga Lubachi, coordonnateur national de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. À la prochaine. Fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Pierre Biassinois était à la mise en onde. Marcel Ngombo a assuré la coordination. Tati Mapoukou, la réalisation micro. Jeudi, Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Et se brancher sur la fréquence de la paix. Et à la prochaine.